I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste, une nouvelle approche de l'action politique. Cet été, Activiste se met au vert. Vous avez remarqué ? Non pas parce que c'est l'été, ni d'ailleurs parce que le vert est décidément la couleur politique à la mode cette saison. Non, si Esther Meunier et moi-même avons tendance à tendre le micro à des activistes écologistes au cours des dernières semaines, c'est parce qu'on a vraiment été très nombreux et nombreuses à vouloir d'un monde d'après, qui nous éviterait de finir dans le mur de l'effondrement. On voulait sortir du déni, sortir de l'impuissance, réussir à s'engager chacun chacune à son échelle, avec ses moyens, au service d'un projet commun tellement plus grand que nous, plus grand même que notre seul pays, mais un projet qui nous redonne espoir en l'avenir, collectivement. Un projet qui ferait rêver. Alors c'est pas l'heure du rêve, pas encore, pas vraiment. Mais il est toujours temps d'aller tendre le micro à celles et ceux qui ont trouvé la force, les ressources et l'inspiration de s'engager pour agir, même si pour le moment, les perspectives sont plus angoissantes qu'inspirantes. Barbara est l'une de ces activistes. Réaliste, déterminée, engagée. Je vous invite à la table de notre rencontre pour une heure d'échange autour du pouvoir, de l'influence et de la question énergétique. Bonne écoute.
Alors, je suis Barbara Nicoloso, j'ai 29 ans et je suis coordinatrice de l'association Virage Énergie.
Qu'est-ce que c'est Virage Énergie ?
Virage Énergie, c'est une association qui fait des scénarios de prospective énergétique et sociétale. Donc, on s'intéresse en fait à la façon dont on consomme et on produit de l'énergie aujourd'hui et à la façon dont on sera amené à la produire et à la consommer dans les années à venir pour matcher avec les enjeux climatiques. Donc, ça suppose de revoir la façon dont notre société fonctionne, aussi bien d'un point de vue économique que social que politique.
C'est de gauche ou de droite ?
C'est plutôt de gauche. C'est plutôt de gauche, même si, voilà, de nos jours, on ne sait plus. Hein. On ne sait plus ce qui est de gauche, ce qui est de droite, mais ouais, on est plutôt proche de l'écologie politique, en tout cas.
Je suis doublement étonnée, déjà que tu aies compris la question et que tu y aies répondu. Parce qu'en fait, quand tu présentes Virage Énergie, moi, j'attends à la fois association, donc quelque chose qui est citoyen, qui vient de la société civile, et en même temps, des thématiques très proches de l'économie. D'où la question, enfin, un peu caricaturale, c'est de gauche ou de droite. En fait, je me posais la question de... En fait, c'est militant, c'est citoyen ou c'est à but lucratif. Alors, pas la structure de l'association, mais le but du jeu, c'est sauver l'économie. Tu vois ce que je veux dire ?
Alors non, c'est pas du tout ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est vraiment d'accompagner les territoires, les collectivités dans la mise en place de stratégies d'adaptation au changement climatique et transition énergétique. Nous, notre cible, c'est vraiment les élus, les techniciens de collectivités et pas tellement les entreprises. L'objectif de l'asso, hein, c'est vraiment voilà, un groupe de citoyens qui est devenu expert à force de travail sur les questions d'énergie, d'aller voir des élus, du territoire des Hauts-de-France ou d'ailleurs en France, et vraiment amener ces éléments de plaidoyer pour un changement de mode de société allant vers une réduction de nos consommations énergétiques, donc notamment par un changement de mode de vie de l'ensemble de la population.
Est-ce que tu peux donner des exemples ?
Je peux donner des exemples, oui, tout à fait. Pour réduire les consommations d'énergie, par exemple, liées au transport, on peut réduire la vitesse en ville. En plus, ça permet de limiter les accidents et puis d'améliorer la qualité de l'air. Ça peut être mettre en place des circuits courts, revoir également le temps de travail, revoir la place des loisirs dans notre vie, revoir également le rapport qu'on peut avoir à la vitesse, donc que ce soit dans la mobilité, mais également dans l'économie, le rapport au numérique. Ça peut être le rapport à la nature, l'éducation, et puis ensuite tout ce qui est lié à l'habitat, donc la mise en place d'habitats partagés, de mutualisation d'équipements, toutes ces choses-là, qui, mis les unes bout à bout, permettent de faire quand même de sacrées économies d'énergie, d'apporter du mieux vivre, et peut-être à terme d'arriver à limiter quand même au maximum ce dérèglement climatique qui est déjà bien engagé et qui nous emmène tout droit dans le mur, quoi.
Donc par exemple, moi je viens d'être élue maire d'une commune, on va dire. Parce
que tout à fait.
C'est pas exactement le cas, mais disons que j'ai été élue maire d'une commune, là, justement, après le confinement. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Comment ça se passe?
Et ben, ce qu'on peut faire ensemble, c'est déjà faire un diagnostic de la façon dont la commune consomme de l'énergie, donc dans l'ensemble des champs de la vie quotidienne. Et puis ensuite, on peut construire ensemble ce qu'on appelle une stratégie de descente énergétique. C'est qu'on va voir les leviers qu'on peut actionner pour réduire les consommations d'énergie et du coup adapter progressivement la commune aux différents aspects liés au dérèglement climatique. Alors, il y a l'aspect, voilà, on va dire, davantage de phénomènes météorologiques violents, mais ça peut être aussi des chocs économiques. Voilà, on sait aussi que le baril de pétrole et le PIB en général fonctionnent l'un avec l'autre, donc un choc pétrolier peut vraiment entraîner de très graves difficultés économiques. Donc comment on rend une commune plus résiliente à ce genre de choc, plus autonome également en matière d'énergie. Comment également on peut se prémunir d'une crise sanitaire comme celle qu'on est en train de connaître. Et puis comment, d'une manière générale, on apporte du mieux vivre aux habitants. À Virage Énergie, on fait de la politique dans le sens vraiment primaire du terme politique, quoi, la vie de la cité. C'est comment on revoit nos modes de fonctionnement pour finalement qu'à la fin de la journée, en fait, tout le monde vive de manière correcte sur cette terre. La finalité, c'est vraiment celle-là. Et donc voilà, c'est en mettant bout à bout toutes ces préconisations de politique publique qu'on amène à un nouveau modèle de société, qui en fait est un nouveau modèle, mais on n'invente rien. Hein. Enfin, j'ai envie de dire, la transition, c'est beaucoup de bon sens, hein, mais c'est comment on peut donner à voir en fait, à un élu ce panel de politiques, d'actions qu'il est possible de mettre en place à l'échelle d'un mandat, de deux mandats, et qui auront des retours sur investissement très forts en termes de mieux vivre, de santé, de qualité de vie dans la rue, d'espace public, voilà, l'ensemble de ces champs qui sont couverts par une commune ou par une intercommunalité.
J'aurais dû préciser que j'étais maire d'une petite commune, ouais. Petite ville, et que du coup, j'ai pas de budget. Qui paye ?
Alors, qui paye ? Ce qui est bien avec les économies d'énergie, c'est que ça coûte pas cher. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on consomme pas. Donc, ça va pas coûter cher. En plus, ça va rapporter de l'argent. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, qui peuvent être mises en place. S'il y a un tissu associatif qui est assez présent avec des citoyens, il y a des choses qui coûtent pas très cher qui peuvent être facilement mises en place. Après, l'idée, c'est aussi d'aller chercher des aides financières auprès de la grosse intercommunalité qui est à côté, du conseil départemental, du conseil régional, voire de l'État, pour financer l'ensemble de ces politiques publiques. Du côté des entreprises aussi, hein, si on prend l'exemple des circuits courts, aller voir les agriculteurs, aller voir les distributeurs, aller voir les cantines scolaires et voir comment on peut mettre tout ça en musique pour arriver à avoir un approvisionnement local de qualité et biologique de préférence. C'est beaucoup de coordination en fait. Nous, ce qu'on prend vraiment, c'est donc la sobriété. Et derrière, c'est pas forcément des investissements très lourds. Ça va pas être un rond-point à 300 000 euros. Par contre, ça va être la création de 5 emplois d'animateurs, coordinateurs pour mettre tout ça en musique et arriver à des résultats assez rapidement.
Alors, sur le fond, je pense que je saisis l'idée. Mm-hmm. En pratique, il y a une résistance que j'imagine est partagée par pas mal de gens qui nous écoutent. Quand tu dis. Ce qui est bien avec changer nos modes de consommation, c'est que en fait, ça coûte pas cher parce que l'énergie qu'on consomme pas, c'est celle qui coûte le moins cher. Il y a quand même un coût dans le changement, c'est-à-dire que encore une fois dans ma commune, imaginons que j'ai fait construire un énorme stade qui va quand même falloir amortir. Et en plus, je l'ai construit, voilà, je me suis endettée sur 30-40 ans, je ne sais pas quelle est la durée de concession, parce que ce n'est pas moi qui ai signé le contrat, moi je viens juste d'être élue, excusez-moi. Et du coup, ce stade, je sais très bien qu'il est extrêmement énergivore, je sais très bien qu'il a un impact écologique énorme. Je n'aurais pas forcément pris ces décisions, mais je pense à toutes les maires de communes ou toutes les équipes municipales qui sont arrivées en poste et qui doivent assumer des décisions qui ont été prises 10-15 ans avant eux. Il y a un amortissement qui doit être fait sur ces investissements. Et si on ne le fait pas, y a un vrai coût à changer. Donc quand tu dis... j'entends très bien cet argument qui consiste à dire évidemment qu'on a tous à y gagner, à changer nos modes de consommation, à faire une transition énergétique. Il y a quand même un coût dans cette transition.
Oui, il y a un coût. Forcément, il y a un coût. Alors, financier ou pas financier. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a énormément d'argent qui est injecté dans des modes de production, des modes de consommation qui ne sont pas forcément bons pour la planète, et que cet argent-là peut être redirigé vers des façons de faire qui sont beaucoup plus respectueuses. Le cas du stade, voilà, il est construit, il fonctionne, on ne peut pas revenir en arrière. Après, ça peut être la mise en place, je ne sais pas, de mutualisation, l'utilisation de ce stade pour d'autres choses que des événements sportifs, essayer de le rentabiliser au maximum pour ne pas avoir à construire un autre stade dans la commune d'à côté. C'est toutes ces questions-là, en fait, vraiment de mutualisation, de finalement comment on revoit les façons de fonctionner plutôt que de continuer à construire de nouveaux équipements, et même pourquoi pas arrêter d'utiliser certains équipements s'ils sont beaucoup trop onéreux et que ça ne correspond plus à un besoin. Une question assez récurrente dans les milieux écolo, est-ce qu'il faut continuer à faire des Jeux Olympiques ? C'est une vraie question. Est-ce que, dans un monde où on se dirige, si on continue là comme on est lancé, hein, plus 4, plus 5 degrés à la fin du siècle, est-ce que organiser des grands événements comme ça, qui sont certes très sympas, l'esprit sportif, la rencontre des cultures, on est d'accord, tout ça c'est super, mais qui par ailleurs ont un coût environnemental et climatique qui est juste énorme, la question se pose. Donc ça se pose aussi à une échelle beaucoup plus locale sur, est-ce qu'avoir un stade qui fonctionne 30 soirs par an, c'est quelque chose qui est viable ou pas ? C'est quelque chose qui était peut-être viable dans le monde d'avant, comme on dit, dans un modèle capitaliste de croissance qui fonctionne bien. Dans le modèle, le monde dans lequel on est, où on va se prendre un mur, on arrive, le mur est là, on peut se poser la question de poursuivre comme ça ou de changer totalement.
Ok. L'idée de construire un stade ou un centre commercial ou tout autre équipement...
ou une piscine olympique.
Ou une piscine olympique, évidemment. C'est pas venu uniquement, c'est pas venu de moi déjà, c'est pas venu forcément des citoyens, c'est venu de ce qu'on va appeler des lobbies qui prêchent pour leur paroisse, les grands groupes de construction qui ont des super plans d'hôpitaux dernier cri, des super stades avec des pelouses qui se plient, etc. C'est génial, franchement. Hey, t'en achètes un, tu le payes pendant 50 ans, tout va bien, t'as même pas à débourser l'argent tout de suite, c'est une affaire. Donc, on est sur des lobbies. Du coup, Virage Énergie, vous êtes le contre-lobby de ça ?
Alors, je dirais pas qu'on a un contre-lobby, parce que malheureusement, on est une association, on est une ONG, on n'a pas du tout les mêmes moyens que les gros groupes industriels. Et la triste réalité, c'est encore à l'heure actuelle que ces gros lobbies, on fait même pas le poids, enfin, ça sert à rien. Nous, ce qu'on essaye de proposer, c'est un autre mode de faire, une autre vision, un autre imaginaire aussi de l'avenir, un imaginaire extrêmement techniciste. Typiquement, je vais prendre l'exemple Europa City, qui était cet énorme centre commercial qui devait être construit sur le triangle de Gonesse, à côté de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. L'objectif, c'était d'avoir des boutiques de luxe, une station de ski, un surf park, enfin la totale, tous les pires trucs qu'on peut avoir, pour que les touristes qui sont en transit à Roissy et qui ont 3 heures à tuer puissent aller s'acheter un sac Vuitton et puis descendre une piste. Bon, ce projet-là a été finalement retoqué grâce à la mobilisation de plusieurs associations de citoyens et d'élus sur ce territoire-là, d'autant plus qu'il faut savoir que le triangle de Gonesse, c'est un des derniers endroits où on a des terres cultivables, du sol qui est bon à proximité de Paris, et qu'à un moment il faut quand même se poser la question de comment nourrira les Parisiens en 2050, quand on ne pourra plus importer des bananes et des produits exotiques à l'autre bout du monde. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de montrer que ce modèle là qui est encore extrêmement présent, tu as tout à fait raison de le dire, que ce soit dans l'esprit de grandes entreprises, de grands aménageurs, d'architectes, d'élus aussi, parce qu'on a beaucoup d'élus qui ont encore un logiciel, un fonctionnement qui est celui d'un autre temps et qui ont du mal à accepter que le monde est en train de changer et qu'il y a aussi une vraie volonté citoyenne de sortir d'un modèle extrêmement, extrêmement consommateur en tout, que ce soit en ressources, en énergie, mais également en argent et aussi en vie humaine, parce que tout se construit pas tout seul. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de proposer ce modèle alternatif avec d'autres associations qui font aussi ça en France, également des élus des territoires qui s'engagent vers ce modèle un peu différent, et de se dire aussi que bah, voilà, le jour où on aura un gros problème de choc énergétique, de grosses catastrophes climatiques en France ou en région de France, bah, il y aura des territoires qui seront prêts parce qu'ils auront déjà engagé le changement avant que la catastrophe n'arrive.
Alors tu soulèves un double point qui amène ma question suivante. Effectivement, moi en tant qu'élu, c'est pas que je m'intéresse pas au long terme, c'est que j'ai d'abord des problèmes de court terme. J'ai d'abord des problèmes de chômage sur mon territoire. Et effectivement, quand on construit un stade ou un centre commercial, tout de suite c'est des emplois, tout de suite c'est de l'activité. Alors que prendre des décisions qui aujourd'hui vont avoir pour conséquence une meilleure résilience demain, déjà ça résout pas mes problèmes au présent. Ou alors, enfin, fais-moi mentir. Et ensuite, bah, c'est une projection dans laquelle j'ai pas envie d'emmener les gens qui me suivent et qui votent pour moi et que je veux emmener dans un projet collectif. Se dire qu'on est en train de se préparer à être résilient face à des catastrophes, ça fait pas rêver. C'est pas un programme électoral, c'est pas un projet de société. Donc, enfin voilà, double résistance de ma part, toujours élue d'une commune. Qu'est-ce que tu me réponds ?
Je réponds que construire la résilience aujourd'hui, c'est créer de l'emploi, en fait. Parce qu'il y a une grande partie hein, de tout ce travail de changement de modèle qui va reposer sur la relocalisation des activités sur le territoire. À l'heure actuelle, hein, ce qu'on mange au quotidien en France, il y a peu de chances que ça vienne d'un périmètre de moins de 150 km. Il y a énormément d'activités à recréer sur les territoires. Donc là, je parle de l'alimentation. Hein, donc première chose à faire aussi, hein, redonner la place qui doit être celle des agriculteurs, hein, qui a quand même, voilà, on l'a bien vu pendant la crise sanitaire, la nourriture, elle n'arrive pas tout seul dans l'assiette. Derrière, il y a des gens qui travaillent dur, qui gagnent très mal leur vie, qui souvent en payent le prix. Hein. De leur vie d'ailleurs et donc l'idée c'est vraiment de dire qu'on revienne sur des systèmes d'approvisionnement donc liés à l'alimentation mais à d'autres services aussi qui soient sur un périmètre géographique assez proche et d'arrêter d'être dans ce modèle ultra mondialisé qui fait que trois quarts de ce qu'on consomme au quotidien ça vient de l'autre bout de la planète donc ça a un coût forcément écologique, ça a un coût également social, éthique hein, parce que c'est pas forcément toujours fabriqué par des personnes qui sont en âge de travailler ou qui travaillent dans des conditions sanitaires qui sont correctes et d'essayer justement de ramener ces activités sur nos territoires. Alors c'est intéressant d'un point de vue économique, ça crée de l'emploi, d'un point de vue stratégique aussi, parce qu'il y a énormément de choses qu'on a délocalisées dans des pays qui, à l'heure actuelle, on peut se poser la question hein, de leur ambition, de leur vision de l'avenir, qui n'est pas forcément celle de la France. Hein. Je parle notamment d'un grand pays d'Asie, pour ne pas le citer, hein, où on a eu la bonne idée de délocaliser la plupart des médicaments qu'on consomme. Mais c'est valable également pour d'autres grands secteurs hein, stratégiques comme l'acier, comme les produits informatiques, le numérique, enfin voilà, l'ensemble de ces secteurs-là. Il y a également un énorme chantier qui est peut-être le plus gros chantier de la transition énergétique, qui est celui de la rénovation thermique des habitats. C'est-à-dire que, bah, voilà, à l'heure actuelle, en France, on a un parc de logements qui est très mal isolé, donc avec des logements qui consomment énormément, qui fait que derrière, on a des personnes qui dépensent énormément d'argent dans le chauffage. Ici, dans les Hauts-de-France, on est une région où à peu près 25% de la population en situation de précarité énergétique, donc consacre plus de 10% de ses revenus mensuels à se chauffer, donc c'est juste, c'est démentiel. Et derrière, bah voilà, on a besoin de centaines de milliers de personnes pour rénover ces habitations. Donc là aussi, créer des filières d'emploi. Idem pour tout ce qui est mobilité. Voilà, on parle de plus en plus de la voiture autonome, de la disparition du métier de chauffeur-livreur, ce genre de choses. Mais on se rend compte que bah, voilà, si on veut vraiment décarboner la mobilité, il y a tout un pan hein, de métiers liés au vélo, à la livraison du dernier kilomètre, comment on fait des petits trajets sans utiliser de voiture ou de camion liés bah, voilà, à la livraison par vélo qui peut aussi se mettre en place. Et puis sur la question également des biens de consommation, hein, je disais tout à l'heure sur les secteurs un peu plus stratégiques, mais la question du textile. Hein, comment on fait pour produire localement des produits de bonne qualité et également à un prix qui soit juste aussi bien pour le producteur que pour le consommateur. Et elle est peut-être là aussi la difficulté de la transition, c'est que On entend très bien, hein, que ce soit compliqué pour des personnes qui ont de grandes difficultés financières d'aller s'acheter une marinière chez Armor Luxe à 150 €, alors qu'elle peut s'acheter même type de vêtements à 5 € chez Primark, quoi. Et la grande difficulté, elle est là, c'est comment on accompagne en fait ces personnes, les personnes les plus vulnérables, les plus précaires, qui n'ont pas forcément les moyens, vers un modèle de société relocalisé, mais qui va coûter plus cher. Elle est vraiment là, la difficulté, et c'est en ça qu'on essaye de prôner aussi une transition qui soit juste, parce qu'il faut rappeler qu'à l'heure actuelle, les personnes qui émettent le plus de gaz à effet de serre en France et même dans le monde, c'est les personnes les plus riches, c'est pas les plus pauvres, et que c'est ces personnes-là qui doivent faire un effort, et pas les personnes les plus précaires qui, au contraire, elles doivent accéder à un niveau de vie minimum décent.
Je t'écoute, et il me vient cette pensée. Pourquoi est-ce que tout ce discours que tu viens de tenir, je l'entends dans un bureau qui contient 2 personnes à la maison régionale de l'environnement et des solidarités à Lille, et pas la directrice de cabinet du ministère de l'Environnement, voire celui d'ailleurs du Premier ministre?
Bah, elle vient de changer, la ministre, donc peut-être qu'on peut lui laisser un petit peu de temps. Pareil pour le Premier ministre.
Mais tu vois ce que je veux dire, c'est ça le niveau de ma question.
Ouais,
c'est
bien sûr.
Tout ce que tu viens de dire là, pourquoi c'est pas le programme gouvernemental de la transition énergétique écologique?
Alors, ça l'est de plus en plus, on va dire. Hein. Après, le problème, c'est une question de moyens. C'est combien de milliards on met derrière tout ça. C'est pas faute, hein, d'être plusieurs dizaines, voire centaines d'ONG en France, hein, à faire du plaidoyer depuis maintenant 50 ans sur ces questions-là. Donc, au bout d'un moment, ça commence quand même à infuser. Je pense qu'il y a un problème qui est encore que, alors, malgré le verdissement, hein, de l'ensemble des partis politiques et des programmes, qui considèrent l'écologie comme quelque chose d'encore idéologique. Et que quand on a un Premier ministre qui dit que lui, il ne veut pas faire de la décroissance, mais de la croissance verte, c'est problématique. C'est qu'intellectuellement, il faut comprendre que c'est pas possible de faire une croissance infinie dans un monde fini. Ça, on le sait bien depuis très longtemps. L'exemple le plus marquant, hein, c'est dans les années 70, voilà, la première photo, hein, prise de la Terre depuis l'espace, on se rend compte que c'est un monde fini. À un moment, ça s'arrête. On peut pas, le jour où il y aura plus d'or dans le sol, il y aura plus de pétrole, on pourra plus en recréer. Et donc, avoir cet imaginaire, ce mythe de « mais oui, la croissance est toujours possible, même aller chercher le point de PIB en plus, faut y aller, peu importe le coût environnemental, le coût social, faut aller le chercher », c'est ça qui bloque, en fait, je pense. C'est que le mouvement écologiste, des associations comme Virage Énergie, on prône une vision de la société qui n'est pas acceptée encore par la majorité des gens et par certains partis politiques qui sont actuellement au pouvoir.
Mais c'est une résistance philosophique ou pragmatique? Parce que je me mets une seconde dans la tête du Premier ministre, mais c'est pas une résistance... Moi, je veux bien changer de modèle de croissance de société. Aujourd'hui, je ne connais que ce modèle-là. Tu vois, j'ai grandi dedans, on m'a appris des modèles de société qui, par le passé, ont été des échecs, notamment le communisme, par exemple. On l'apprend à l'école comme un échec, tu vois. Bon. Et le capitalisme, ça marche. Alors, on n'a pas dit que c'était parfait, on a dit que ça marchait. Et aujourd'hui, moi, c'est pas que je veux pas faire autrement, c'est que je sais pas faire autrement.
Tu sais pas faire autrement, et en même temps, tu vas pas avoir le choix que de construire quelque chose de différent, puisque très bientôt, et ça a déjà commencé, on sera dans un monde qui sera totalement différent que le monde qu'on a connu depuis les 5000 dernières années. C'est qu'on va se retrouver à un moment où l'espèce humaine va avoir des difficultés à pouvoir vivre de manière correcte sur cette planète. À l'heure actuelle, il y a une grande partie de la population mondiale qui a déjà des difficultés à vivre correctement sur cette planète, d'un point de vue économique. Mais on se rend compte que d'un point de vue naturel, de milieu, c'est de plus en plus compliqué, il y a de plus en plus de sécheresse, donc du coup de plus en plus de difficultés à pouvoir avoir des récoltes en qualité et en quantité, un accès à l'eau qui est de plus en plus compliqué, des migrations qui, il ne faut pas l'oublier, hein, même si beaucoup sont économiques, à l'origine, il y en a beaucoup qui sont aussi à cause de catastrophes naturelles, hein, que ce soit de problèmes de rendement agricole, de périodes de sécheresse, de périodes d'incendie, ce genre de, voilà, de, entre guillemets, de disruption hein, du milieu naturel qui ont des conséquences socio-économiques qui sont extrêmement fortes et qui emmènent des migrations mondiales. Et puis une géographie mondiale qui va être tout à fait remodelée, en fait. Hein, pour prendre l'exemple des Hauts-de-France, si en effet on continue, hein, comme on le fait à l'heure actuelle, donc à ne pas réduire nos consommations et nos émissions de gaz à effet de serre, on peut se dire qu'en 2100, il fera plus 3, plus 4 degrés dans la région, ce qui voudrait dire une augmentation du niveau de la mer de plus 2, plus 3 mètres, ce qui voudrait dire que la mer arriverait à Saint-Omer. Alors, pour ceux qui ne sont pas du coin, Saint-Omer, on a une quarantaine de kilomètres du littoral. Donc, Dunkerque est sous l'eau, une grande partie de la Belgique est sous l'eau, les Pays-Bas sont sous l'eau. Là-dessus, voilà, je vous renvoie à toutes ces belles cartes de projection qui sont faites régulièrement par le magazine National Geographic, qui montrent qu'on va avoir un nouveau monde hein, qui va s'ouvrir à nous, avec la grande difficulté que plus de 50% de la population mondiale habite sur les littoraux à l'heure actuelle. Donc voilà, on va être dans un monde qui va être totalement modifié et dans lequel on pourra se poser la question de est-ce que ce modèle capitaliste est encore pertinent ? Est-ce qu'il peut encore tenir ? Quand on voit à quel point une petite crise, on va dire, sanitaire, hein, qui est celle du coronavirus, peut totalement chambouler ce modèle-là. Qu'est-ce que ça donnera quand on aura une problématique mondiale avec des flux de millions de personnes à reloger ? Des entreprises qui, bien sûr, seront impactées. Et voilà, on sera dans l'urgence humanitaire absolue. Et donc, comment on fera à ce moment-là pour continuer ? Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'anticiper ça en mettant déjà, dès aujourd'hui, des mécanismes en place pour qu'une fois que le jour où ça arrivera, alors je dis le jour, mais ça va pas arriver hein, une journée du jour au lendemain, ça y est, plus 4 mètres, mince, qu'est-ce qu'on fait, quoi ?
Sauf dans les films catastrophes.
Sauf dans les films catastrophes.
C'est du jour au lendemain.
Tout à fait. Et qui a un imaginaire aussi, hein, dans lequel j'ai bien grandi. Hein, les films catastrophes des années 90, j'en ai bouffé. Hein. Et du coup, oui, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'anticiper ça, tout en se posant la question de se demander, dans ce monde-là, le capitalisme, peut-être ça ne fonctionnera plus, mais plus inquiétant, est-ce que la démocratie, ça fonctionnera encore aussi hein sans tomber dans le scénario d'effondrement absolu, c'est comment notre modèle social tiendra le choc dans cette situation-là, quoi. Et donc, si dès aujourd'hui, on essaye déjà de remettre en place des systèmes de relocalisation, de solidarité, ce genre de choses, qu'on a quand même beaucoup perdu de vue hein, depuis ces 60 dernières années, on va dire, est-ce que ça nous permettra de tenir le choc ou pas ? Mais de toute façon, ce choc, on va l'avoir. Donc, autant être prêt au maximum.
Mais de toute façon, tu avais répondu à ma question dès les premières phrases, quand tu m'expliques que aujourd'hui, la majorité de la population mondiale vit dans des conditions précaires, on se bat pour bouffer, etc. Bah, c'est un peu la réponse à ma question sur comment penser autre chose que le capitalisme alors que ça marche. Bah non, ça ne marche pas, en fait. Ça a toujours marché pour une minorité, toujours la même d'ailleurs, petite minorité de gens qui s'en sortent. Et fondamentalement, tous les autres, on est en galère. Et enfin, je nous mets dedans parce que nous, les femmes, n'est-ce pas, on n'est quand même pas non plus totalement gagnantes dans le beau marché libéralisé du capitalisme. Donc effectivement, je comprends mieux pourquoi il y a des gens, des décideurs qui n'arrivent pas à se projeter dans autre chose, parce que pour eux ça marche, pour eux en tant que classe, en tant que groupe social évidemment, groupe socio-économique même, et alors qu'en réalité pour le reste du monde ça n'a jamais marché, et ça marche, à quel prix ça marche en fait pour cette minorité.
Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi tout simplement une vraie difficulté à se projeter. Qui est aussi très lié à la sociologie de nos élus hein, et de nos puissants, qui sont quand même majoritairement des hommes qui ont grandi la plupart hein, dans la période des 30 Glorieuses, et pour qui c'est totalement inimaginable que le monde ne continue pas comme il a fonctionné depuis ces 300 dernières années. La révolution industrielle n'a apporté que du progrès, et il n'y a pas de raison que ça continue pas avec le transhumanisme et avec toutes ces nouvelles technologies qu'on va développer et qu'on va découvrir. Mais on n'a aucune idée de ce qu'on va pouvoir développer. Les délires actuels hein, du patron d'Amazon et du patron de Tesla, où ils se font la guéguerre pour savoir qui ira sur Mars, qui ira sur la Lune et quel minerai on ira chercher et qu'on pourra exploiter, on n'en a strictement aucune idée. Et là aussi, ce sont des imaginaires véhiculés par des films catastrophes ou des films de science-fiction américains. Le mythe de la technologie va nous sauver, mais moi, j'achète pas, quoi. Enfin, on en a strictement aucune idée. Par contre, ce qu'on est sûr de plus en plus, c'est que si on change pas de modèle à l'échelle internationale, à la fin du siècle, il fait plus 4 degrés. Et là, ça va être compliqué d'être 10 milliards d'habitants sur une terre où l'ensemble des écosystèmes sont totalement perturbés, quoi.
Effectivement, je rebondis aussi sur la difficulté des élus à se projeter. Tu parlais tout à l'heure du fait que le niveau de la mer va monter d'ici 2100. Mais 2100, c'est loin. Ils ne seront plus là. Est-ce que je serai encore là? Moi, j'ai déjà faim de faire le calcul. Tout juste, et encore. donc oui, il y a aussi une difficulté à se mobiliser aujourd'hui pour éviter des conséquences, un avenir, ou pour construire un avenir, si tu prends l'angle le plus positif de projection. Mais un avenir, en fait, dans lequel qu'on ne verra pas. Il y a un côté, enfin, pour notre génération de trentenaires, parce que je suis un peu plus âgée que toi, mais on va dire qu'on a environ le même âge, c'est pas ma faute. Tout ce qui se passe derrière moi, là, tout ce qui est arrivé, vraiment, j'y suis pour rien. Moi, j'ai rien demandé à personne, je suis née dans les années 80, c'est pas ma faute. Et ce futur apocalyptique, je le verrai pas, tout juste. Moi, j'ai pas d'enfant, donc non. Ah, ça va être compliqué, mais bon, ça va augmenter progressivement, la température va augmenter, tout ça. Ça fait déjà 3 fois, 4 fois, 5 fois que je vis des canicules, c'est bon, je me suis habituée, environ. Donc il y a un côté, on va vivre avec. C'est là où je manque d'optimisme, en fait, pour me dire qu'il va y avoir une génération où des gens, des individus, qui vont avoir le courage, la force, je sais pas comment l'appeler, mais de vraiment taper du poing sur la table en disant « maintenant, ça change ».
Je vais pas être beaucoup plus optimiste, hein. pour compléter ton propos. Nous trentenaires, on a connu quelques canicules, on va pouvoir résister, sauf que quand on aura 70 ans, 80 ans, si on arrive jusque là, ça va être compliqué, les canicules à 45-50 degrés l'été. C'est ça aussi qui est assez dramatique, je trouve, c'est que, alors on va dire notre génération, hein, et puis celle qui arrive aussi, qui est vraiment en train de monter au créneau sur ces questions-là, hein, de dérèglement climatique et d'hypothèque, hein, de notre avenir, hein, par les gouvernements et les entreprises à l'heure actuelle, ça va être celle qui va être le plus impactée, en fait, dans sa vie personnelle sur les conséquences de ce dérèglement climatique. On est des filles, trentenaires. Moi, je travaille dans un milieu écolo. C'est pas rare d'entendre des discours de personnes qui se disent qu'elles n'auront pas d'enfants parce qu'elles ne veulent pas mettre au monde des êtres humains dans un monde qui, très certainement, risque d'être extrêmement perturbé dans les années à venir. On a fait le calcul, hein, 2050, c'est dans 5 mandats. 5 mandats locaux, donc 5 fois 6, 30, hein. Ça paraît loin et c'est pas si loin que ça. Parce que quand on est à 5 mandats de 2050, on peut pas se permettre d'avoir un mandat où on fait rien. Et c'est en ça où c'est extrêmement important qu'aujourd'hui, là, lendemain d'élections municipales intercommunales, les citoyens, les associations aillent voir leurs élus et leur disent « voilà, on est à 30 ans de 2050 ». C'est maintenant, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 15 ans, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ce sera au moins à faire plus tard. Et puis plus on attend, plus le dérèglement sera fort. Ça aussi, c'est pas intellectuellement, hein, c'est pas évident à comprendre, mais de toute façon, là, le dérèglement, il est lancé. Hein. Si demain on arrêtait d'émettre du jour au lendemain, on serait quand même à +2, +2,5 à la fin du siècle. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire comment. Très rapidement, on essaye de changer de modèle pour, entre guillemets, amortir la chute. Même si on sait que, à la fin du siècle, il y a très de fortes chances qu'on soit à +3, +4, dans un monde où, bien sûr, certaines personnes vont tout à fait tirer avantage de ces règlements. Il n'y a qu'à aller voir la prospection qui est en train de se mettre en place dans l'Arctique. Il y a des États et des entreprises qui n'ont qu'une envie, c'est que ça fonde le plus vite possible pour aller chercher le pétrole et les minerais qui sont au fond de la mer Arctique. Donc ça, il y en aura toujours. Et puis, il y aura bien un jour un baril de pétrole pour aller chercher le dernier baril de pétrole. Et là, c'est vraiment compliqué parce que... On est face à des grandes puissances économiques, des grandes puissances militaires aussi, qui peuvent défendre ces intérêts-là. Mais une grande majorité de la population mondiale n'est pas forcément d'accord.
Oui, j'allais dire, nous, on est une grande puissance démographique. Sauf qu'on n'est pas coordonnés et on n'est pas mobilisés aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait, on est d'accord. Et en plus, c'est extrêmement compliqué d'avoir une écoute, une place médiatique. Je pense à cette chère Greta Thunberg, hein, qui s'en est pris quand même plein la figure. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'elle était jeune et qu'elle c'était une fille, sûrement. Ça, ouais,
on peut,
ça
on a peut
dû aider. Ça a dû aider. Hein. Mais aussi parce qu'elle porte un discours qui est extrêmement dérangeant pour une certaine catégorie de décideurs. Voilà, c'est qui cette gamine qui vient nous emmerder, elle n'y connaît rien, de quoi
Qui vient dire « je veux que vous paniquiez ». C'est oui, la phrase qui m'a le
oui,
plus choquée,
tout à fait,
je pense.
Tout à fait. Parce que quand on travaille au quotidien sur ces questions-là, qu'on lit le rapport du GIEC, le rapport du Haut Conseil pour le Climat, mais il y a de quoi paniquer, en fait. Et c'est pas pour rien qu'on parle d'éco-anxiété, qui est un phénomène, hein, d'anxiété liée au dérèglement climatique chez les gens qui travaillent sur les questions environnementales, et en particulier sur la question du climat. C'est que c'est quelque chose, en fait, qui vous ronge. Parce qu'on se rend compte que le constat est fait. Enfin, scientifiquement, il n'y a plus rien à prouver. On sait très bien que voilà, l'homme émet des gaz à effet de serre qui, en quantité de plus en plus importante, ont un phénomène de dérèglement climatique à l'échelle mondiale, avec des impacts sur l'ensemble des écosystèmes, l'ensemble des systèmes naturels. Et que ça, forcément, bah, ça va avoir un impact énorme, cataclysmique même, et que par ailleurs, la réponse politique, elle est pas du tout à la hauteur. On va arrêter de chauffer les terrasses l'hiver. Super.
Mais on va quand même s'en féliciter parce que il a fallu se battre pour obtenir.
Mais c'est ça qui est dingue. Mais c'est ça qui est dingue. C'est toute l'énergie en fait qu'on doit mettre pour mettre fin à une voilà une mesure qui n'existe pas, une aberration qui est en plus liée aux fumeurs. Hein, faut le dire quand même. Non, mais c'est ça qui est dingue en fait. C'est qu'on est finalement, on va dire en tant que ouais, professionnel de l'environnement, ONG, etc., salarié d'ONG, on est assez peu en France quand même, hein, globalement, qu'on dépense énormément d'énergie à faire du plaidoyer, à aller voir les élus, que ce soit au niveau du gouvernement, mais des territoires au quotidien, et que finalement les avancées sont. C'est peanuts par rapport aux enjeux. C'est peanuts. On manque peut-être aussi de figures médiatiques. Qui propose en fait une, comment dire, pas une alternative mais un imaginaire, quelque chose qui soit désirable et qui fasse que les gens aspirent à aller vers ce changement de modèle.
Par exemple, le film documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent il y a quelques années, qui avait gagné d'ailleurs le César du meilleur documentaire, Demain le film, et je trouve qu'il répondait bien à ça, c'est-à-dire qu'il projetait quelque chose de désirable, de réalisable. Enfin, c'était pas, en plus c'était pas complètement révolutionnaire, on n'allait pas finir tous en sarouel dans le Larzac, mais ça donnait une projection positive de réponse aux enjeux climatiques.
Tout à fait. Mais moi j'ai un problème avec ce documentaire, c'est que cette vision positive... elle passe un petit peu en fait à côté du drame qu'on est en train de vivre. Alors je sais qu'il faut pas faire peur aux gens, qu'il faut pas faut pas projeter quelque chose de noir, sinon voilà la peur ça bloque, etc. Mais Greta Thunberg elle a mille fois raison quand elle a dit je veux que vous paniquiez. C'est que si vous avez pas peur en fait, c'est que vous avez pas compris. C'est Rob Hopkins hein, qui dit ça, donc le créateur du mouvement des Gilets en transition, qui dit que vraiment, si vous n'avez pas peur, c'est que vous n'avez pas compris la mesure de ce qui est en train de se passer. Et ce qui est de plus en plus inquiétant, c'est que voilà, on a au quotidien hein, des articles qui sortent sur le changement climatique, ce genre de choses, et que plus ça va, plus on se rend compte en fait qu'on ne mesure pas ce qui est en train de se passer. Les 25-30 degrés qu'il y a en ce moment au Groenland, ça, c'est des trucs dans les projections du GIEC il y a 5 ans. C'était quelque chose qui devait arriver en 2045. On est en 2020. Donc on est aussi rattrapé par l'emballement du dérèglement. Et là-dessus, en fait, on se dit, bon, bah voilà, 2050, 2070, c'est loin, on ne connaîtra pas. Mais peut-être qu'en fait, dans 10 ans, on connaîtra des choses qu'on avait prévues pour 2060, 2070, quoi.
Alors, comme l'objectif de ce podcast n'est pas de donner envie aux gens de tout plaquer pour aller élever des chèvres dans le Larzac et de fuir la civilisation, de reconstruire une toute nouvelle dans le Larzac, je parle du Larzac parce que c'est mon propre imaginaire évidemment, mais que le but c'est plutôt de donner aux gens envie de se mobiliser pour participer au changement, je veux qu'on vienne un peu à toi parce que depuis environ 40 minutes qu'on parle, tu parles effectivement de sujets qui sont extrêmement graves, de problématiques extrêmement sérieuses, avec un calme
Admirable. T'es pas la première activiste femme que j'interview ces dernières semaines et qui partage ces constats-là. Et vous avez tout en commun de ne pas être hystérique et de ne pas être complètement déstabilisante dans la façon dont vous vous exprimez. Du coup, je voudrais m'intéresser un petit peu à ton parcours et ce qui t'amène à choisir cet engagement-là, à avoir choisi de consacrer, d'en faire ton travail, de consacrer ta vie en fait, à ces questions-là. Justement à l'aune de il y a beaucoup de c'est un stress, c'est difficile de travailler sur ces questions-là au quotidien. Tu préférerais pas faire complètement autre chose et pouvoir ignorer cette réalité comme la plupart des gens d'ailleurs?
Non, c'est trop tard malheureusement. Je me suis pris la révélation du dérèglement climatique dans la tête, si on peut appeler ça comme ça.
C'était quand? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, il y a eu plusieurs étapes. J'ai toujours été une grande lectrice de presse, une fan d'actualité, de la politique, tout ça. C'est des choses qui m'ont toujours beaucoup intéressée. J'ai choisi d'en faire mes études. Donc, je fais Sciences Po Lille. J'ai fait un master en développement soutenable. Et ce master a la particularité donc, d'être un master en développement soutenable et pas en développement durable.
Explique la différence.
La différence. En fait, le terme initial est le terme anglais Sustainable Development, qui a été mal traduit en français. Il aurait dû être traduit en développement soutenable, et il a été traduit par développement durable. Le problème avec la notion de développement durable, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on peut changer quelque chose un jour et qu'ensuite, ça va durer tout le temps. Alors que la notion de développement soutenable sous-entend qu'il faut toujours y revenir en fait, que rien n'est jamais acquis et que c'est un travail permanent qui doit être fait. C'est pas parce qu'une boîte va mettre du jour au lendemain, je sais pas, une politique RSE, tout le monde va venir en trottinette, que ça va régler le problème. C'est quelque chose qui doit être beaucoup plus profond et auquel on doit porter vraiment une attention dans la durée. Ce master avait la particularité d'être un master quand même très théorique, avec des cours de philosophie de l'environnement, d'histoire de l'environnement. Et intellectuellement, en fait, c'est un master qui présentait tous les grands théoriciens de l'écologie politique et de la décroissance. Et là, je me suis pris en fait une vraie claque. Parce que, en fait, on va dire qu'à 20 ans, 21 ans, tout ce que je croyais du monde s'est effondré. C'est-à-dire que on est dans un modèle économique qui fonctionne bien, un modèle social qui fonctionne bien. L'État veut toujours le bien de la population. L'État maîtrise les problèmes environnementaux, c'est les méchantes entreprises, tout ça. L'État maîtrise ce qui se passe. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout, que depuis les années 50, les années 60, beaucoup de personnes avaient réfléchi à la façon dont les systèmes socio-techniques, donc les modèles, tout ce qu'on voit pas en fait dans nos sociétés, que ce soit le travail, que ce soit l'économie, que ce soit, je sais pas, le système scolaire, les systèmes de santé... tout ça avait un impact sur la façon dont on vivait et que c'était des choses qui fonctionnaient pas forcément très bien et qui n'étaient pas forcément bonnes entre guillemets pour la planète. Donc j'ai eu quelques lectures un petit peu coup de poing. Le premier livre, ça a été un livre d'Ivan Illich, qui est un philosophe, penseur des années 70, qui a écrit un livre qui s'appelle La convivialité, qui remet justement tout à plat. Le système de santé, l'éducation, l'État, qui dit que la seule façon de vivre d'une manière soutenable, c'est d'être plutôt sur des petits collectifs, sur des systèmes très locaux, enfin, tout l'inverse du système capitaliste mondialisé dans lequel on était. Et puis ensuite, il y a eu aussi des lectures sur le nucléaire, d'un penseur, un philosophe allemand du début du XXe siècle, Günther Anders, qui lui a beaucoup travaillé en fait sur le phénomène de sidération lié à la capacité de l'homme de s'autodétruire par l'arme nucléaire. Donc si vous n'avez pas lu Günther Anders, je vous invite à le faire. Et il parle en fait, il a un concept qui s'appelle la supraliminarité, qui est en fait la difficulté qu'a l'esprit humain à penser un concept qui est juste énorme, là en l'occurrence la fin de l'humanité créée par l'humain et lui-même en fait, c'est-à-dire qu'avec l'arme nucléaire l'homme est capable de s'autodétruire et que cette idée-là elle est juste énorme et qu'au quotidien en fait on peut la concevoir intellectuellement mais si vraiment on la prenait en compte on s'arrêterait de vivre parce que c'est juste énorme et que donc on met en place des mécanismes de défense pour que tous les matins on n'ait pas que ça à l'esprit et qu'on continue notre vie. Bref, et donc voilà, j'ai eu quelques lectures comme ça qui ont tout remis à plat, avec pas mal de questionnements du coup sur ce que je voulais faire par la suite, hein. Parce que c'est vrai que voilà, Sciences Po, on nous forme à devenir un grand dirigeant d'entreprise, une grande dirigeante d'entreprise.
On est l'élite de la nation.
Hein. On est l'élite de la nation, ça on nous dit beaucoup.
C'est le discours d'accueil, voilà. En tout cas à mon époque. Mais bon, ouais, visiblement.
C'était le même aussi à mon époque. On est l'élite de la nation, on nous attend à la sortie, sauf que moi personne n'est venu me chercher à la sortie. Non, et que surtout... on nous vendait pas les ONG en tout cas comme la clé de sortie, enfin pas la clé de sortie mais comme le truc ultra valorisant, ultra intéressant à la sortie de Sciences Po. C'est moins le cas pour les gens qui ont fait des relations internationales où là aller bosser chez Action contre la faim, aller voilà, aider des petits Africains, tout ça c'est super, super glorieux. Par contre aller s'occuper des crapauds dans le Larzac ou dans la Drôme, ça l'était beaucoup moins, et travailler sur les questions de transition énergétique et climatique, ça l'était moins aussi. Le petit truc aussi, c'est que donc moi j'étais diplômée en 2013 et qu'à l'époque la question climatique n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. Ça c'est vrai que ces 2-3 dernières années il y a eu un vrai revirement et je pense qu'à l'heure actuelle un étudiant qui fait ce master là ou fait des études sur l'environnement, la question climatique est totalement incontournable. Nous à l'époque c'était beaucoup moins le cas. Bref, à la suite de quoi, bon, moi j'ai quand même un petit peu, à la suite de Sciences Po, un petit peu travaillé en collectivité parce que je voulais voir ce que c'était que le service public, le bien commun, la façon dont on traitait ces questions de transition, et j'ai été assez déçue. Et j'ai fait quelques rencontres, voilà, dans le cadre de ces boulots-là, de personnes qui étaient justement fonctionnaires, mais qui par ailleurs avaient des forts engagements auprès d'associations ou de partis politiques proches de ces questions de transition écologique. Et puis un jour, voilà, je suis tombée sur le scénario de Virage Énergie. Donc qui était un scénario à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais pour mieux vivre en Nord-Pas-de-Calais en respectant les objectifs climatiques et les enjeux de la transition énergétique. Et j'ai vraiment beaucoup accroché. Enfin, je trouvais ça super intéressant que des citoyens se posent la question de comment on pouvait vivre demain, d'interroger la place du travail, la place des relations sociales, les relocalisations, enfin, toutes ces questions-là qui pour moi devaient être traitées par les collectivités et qui ne l'étaient pas à l'époque. Et le jour où j'ai quitté mon poste donc dans une grande collectivité, une grande métropole française, ce jour-là, le soir même, il y avait un conseil d'administration de Virage Énergie et j'ai rejoint le conseil d'administration de Virage Énergie. Parce que pour moi, c'était beaucoup trop frustrant d'avoir un poids hiérarchique énorme qui fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et des politiques qui n'étaient pas du tout assez ambitieuses face aux enjeux, aux enjeux climatiques et énergétiques qui m'animaient et qui m'animent toujours. Donc j'ai décidé dans un premier temps de m'engager de manière bénévole au sein du conseil d'administration de Virage Énergie. Donc j'ai été administratrice pendant un an et demi. Et puis en parallèle, je me posais quand même la question de si en collectivité j'arrive pas à faire avancer les choses, peut-être que dans le milieu de la recherche j'arriverai à faire avancer les choses. Donc j'ai élaboré un projet de thèse pendant une bonne année. Bon, finalement ça n'a pas abouti pour des questions de financement. Donc c'était quand même une thèse, hein, sur l'adaptation au changement climatique du littoral du nord de la France. Comparé à la Belgique et aux Pays-Bas, ça n'a pas trouvé de financement.
C'est pas prio, c'est pas...
C'est pas la priorité, maintenant, c'est 2050, on a le temps.
C'est loin, j'ai dit.
C'est très loin. Donc voilà, bon bref, j'ai pas poursuivi. Et puis à l'époque, le salarié de Virage Énergie de l'époque souhaitait changer de carrière, hein, devenir instituteur. Et donc il recherchait quelqu'un, donc à ce moment-là, j'ai candidaté. Et puis j'ai été embauchée à l'ASSO en tant que chargée mission. Pour travailler à plein temps sur l'élaboration de scénarios, d'outils, de guides à destination des élus, des collectivités pour avancer sur ces questions de transition et notamment de sobriété énergétique.
C'est hyper intéressant. Tu as quitté un lieu de pouvoir pour rejoindre un lieu d'influence du pouvoir. Mais qu'est-ce que ça dit
Qu'est-ce que ça
sur
dit
la marge de manœuvre des lieux de pouvoir
bah, en tant que chargée de mission d'une collectivité, en tout cas d'une grosse métropole, on n'a pas tant de pouvoir que ça. Parce qu'au-dessus, on a 4 directeurs et que pour avoir accès à l'élu en charge de la thématique, on ne voit jamais en direct. Donc on est plutôt des exécutants, on va dire. Il y a quelques collectivités où ça ne se passe pas comme ça et où les chargés de mission, les techniciens sont vraiment écoutés et peuvent être moteurs. Mais c'est rarement le cas, malheureusement. C'est ça qui m'a aussi pas mal frustrée, hein, c'est que, en tout cas à l'époque, en 2013-2015, dans ces années-là, la question du dérèglement climatique, de la transition, c'était une question pour les écolos. C'est-à-dire que alors les élus qui étaient en charge de cette thématique-là n'étaient pas forcément écolos, mais que le fait de développer, des énergies renouvelables, les circuits courts, ce genre de choses, c'était un truc d'écolo et que un élu de droite qui se respecte, il ne fait pas ça. Il va faire des réseaux électriques intelligents, il va faire du Linky, il va faire de la technologie. Parce que l'énergie, c'est que de la technologie, alors que pas du tout. L'énergie, elle est partout. C'est un sujet qui est très politique, qui est très social. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert en travaillant en collectivité, c'est que l'énergie n'est considérée que comme une question technique, alors que pas du tout. Tout ce qu'on fait, il y a de l'énergie. Quand on mange, c'est de l'énergie, tout. Et c'est vrai que cette clé de lecture, en tout cas, de l'énergie comme moteur de l'ensemble de nos vies et de nos sociétés, ça a été aussi un vrai déclic pour moi, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, étant une fille non ingénieure, ayant fait des sciences sociales et humaines, j'étais tout à fait légitime pour parler de ce sujet-là, et que c'était aussi très dommage de le laisser entre les mains d'ingénieurs hommes qui te disent « Ouais, mais toi, de toute façon, t'es une fille, t'as fait Sciences Po, qu'est-ce que t'y connais au mégawattheure, t'es pas du tout légitime pour parler de la question ». Alors que je peux très bien vous parler de politique alimentaire locale, de plan de mobilité, d'urbanisme, d'aménagement du territoire. C'est quelque chose qui est très large, très transversal et qui du coup mérite d'être étudié sous ce prisme-là en fait.
Mais justement, comment est-ce que tu as dépassé l'obstacle de l'illégitimité ? J'aurais pu poser la question différemment en disant est-ce que tu as eu un syndrome de l'imposteur que tu as dû dépasser ? Tu l'expliques un petit peu en disant que tu as pu t'approprier le sujet même si tu n'étais pas ingénieur. Je t'avoue qu'au départ, je pensais que tu l'étais. Je me suis dit elle travaille dans l'énergie, elle est ingénieure. Évidemment, elle est ingénieure. Donc, comment tu as fait pour dépasser ce problème-là ?
En travaillant beaucoup, en lisant beaucoup. Et en me rendant compte en fait qu'il y avait des sociologues, des politistes qui avaient beaucoup travaillé sur cette question-là, des systèmes énergétiques et d'une manière générale sur la place qu'avait l'énergie dans nos vies. Et à l'heure actuelle, en fait, c'est vraiment la façon dont je me présente, c'est comme ça aussi. C'est quelqu'un qui a fait des sciences politiques, qui fait aussi de l'aménagement du territoire, mais qui est tout à fait capable de parler de la question énergétique et de la question climatique, parce que c'est une question qui est politique, une question sociale, une question économique, et que ces sujets-là, on va dire, ces thématiques-là, je les maîtrise en fait. Hein. J'ai pas besoin. Alors, je suis technicienne d'une certaine façon, mais j'ai pas besoin de savoir comment fonctionne un réacteur nucléaire pour être légitime à parler de la question énergétique. Et je me réjouis qu'à l'heure actuelle, en France, on soit plusieurs filles qui ont moins de 40 ans et qui commencent à vraiment être entendues sur ces questions-là. Parce que c'est aussi une question de représentativité aussi de sexe. Hein. C'est pourquoi l'énergie, c'est un truc de mec, en fait ? C'est aussi, si on va sur la question du genre, de la répartition du temps de travail, de la charge mentale, ce genre de choses, là aussi on parle de sujets féministes. Et au-delà de ça, quand est-ce qu'on demande aux Français, est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'il y ait des centrales nucléaires ou pas, pour qu'on développe plus d'éoliennes ou pas ? La question énergétique en France, c'est quelque chose qui a été toujours très centralisé dans les mains de l'État, dans les mains d'EDF, et on a très rarement demandé aux Français leur avis là-dessus.
Ah mais on connaît leur avis ? Oui, pas dans mon jardin.
Pas surtout. Il y en a, c'est non. Et pas chez mes voisins non plus.
C'est vrai que pour les éoliennes, c'est beaucoup le son de cloche que j'avais eu à chaque fois qu'il y avait des projets éoliens. C'était tout le monde est pour l'énergie propre, mais pas dans mon paysage, pas sur mon horizon, pas dans mon jardin, etc.
Après, il faut voir comment c'est fait. Hein. Il y a beaucoup, à l'heure actuelle, de coopératives d'énergie renouvelable citoyenne qui sortent en France, hein, donc de groupes de citoyens qui décident d'investir ensemble pour développer des projets d'éolien ou des projets de panneaux solaires photovoltaïques, et ça fonctionne plutôt bien. Et bref, c'est la façon dont on fait les choses. Je pense que voilà, si on explique aux gens pourquoi on fait les choses, comment on va les faire, et on va les faire ensemble, ça passe toujours mieux que la grosse entreprise qui va débouler, qui va bétonner un champ, qui va faire son éolienne, et puis c'est tout, on n'en parle plus, quoi. Et c'est ça qui est aussi intéressant à l'heure actuelle sur les questions des énergies renouvelables et notamment des énergies renouvelables citoyennes, c'est qu'au-delà voilà, de la transition énergétique, c'est aussi un nouveau mode de faire qui est apporté. Nous, Virage Énergie, on est très proche d'Enercop, Hauts-de-France, donc Enercop qui est une coopérative citoyenne de production d'électricité. Donc vous n'êtes pas obligé d'être chez EDF, vous pouvez être chez d'autres fournisseurs d'électricité. Enercop est fournisseur d'électricité et eux savent directement d'où proviennent l'électricité qu'ils injectent dans le réseau. Donc en l'occurrence de producteurs qui ont quelques éoliennes, des panneaux solaires sur l'habitation, ce genre de choses. Et c'est ce nouveau mode de faire aussi qui est super intéressant. Même si j'avoue que moi, initialement, ce qui m'intéresse plus, c'est ces questions vraiment de politique publique, de structuration de la société, d'aménagement du territoire qui permettent de faire la transition. Mais sur la question des renouvelables, il y a aussi des choses très intéressantes qui sont en train de se mettre en place. Et là aussi, il y a besoin de gens qui savent faire de la concertation publique, qui savent aller chercher les citoyens, qui savent présenter des projets et qui ne soient pas forcément ingénieurs, quoi. C'est pas parce que vous n'êtes pas ingénieur que vous ne pouvez pas parler des questions énergétiques. Si vous maîtrisez un minimum les bases, vous avez lu 2-3 bouquins, il n'y a aucun problème, quoi.
Si vous vous intéressez à la question et que vous avez la volonté de vous documenter sur la question, c'est ce que tu es en train de me
dire.
Oui,
aussi. Mais d'une manière générale, je trouve qu'on est assez mal informé en fait sur cette question énergétique. C'est qu'on en fait volontairement ou involontairement quelque chose d'extrêmement compliqué, d'extrêmement technique et qui ne concerne pas tout le monde. Alors que en fait, ça concerne tout le monde de savoir si on décide de reconstruire 20 centrales nucléaires en France ou pas, de mettre des éoliennes partout. Ça, c'est vraiment des débats de société qui doivent se tenir. Tout comme la question également, enfin là, on est un petit peu moins sur la question énergétique, quoique, mais des quotas d'émissions de CO2. Est-ce que demain, on doit dire que chaque Français ne peut pas émettre plus de 6 tonnes de CO2 par an, alors qu'à l'heure actuelle, on en émet 12? Qu'est-ce que ça veut dire en fait pour notre société, pour le modèle politique, pour le modèle social, et ces questions-là on nous les pose pas parce que souvent voilà, on nous prend pour des débiles ou voilà, on se dit bon, non, on va pas demander l'avis aux Français, ils vont pas nous dire ce qu'on veut entendre, et je trouve que voilà, je me réjouis qu'il y ait ce conseil hein, citoyen sur le climat qui ait eu lieu, mais il faudrait répliquer la même chose pour l'énergie.
Oui, tu parles de la convention citoyenne.
Convention citoyenne, oui.
Yes. Je reviens juste au fait que tu as quitté une collectivité, donc un lieu de pouvoir pour un lieu d'influence du pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens mieux, j'allais dire, plus utile est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens mieux dans ton job, à l'endroit où tu es, pour pouvoir réussir à agir?
Oui, clairement oui. Premièrement parce que j'ai une liberté de parole et une liberté de ton que je n'avais pas en travaillant dans une collectivité, parce qu'on a un devoir de réserve, et que voilà, là maintenant je peux m'exprimer très, très librement à ton micro, ce que je n'aurais pas pu faire auparavant. Également parce que en termes de rapidité, de fluidité, on est une petite structure, on est deux, on a un conseil d'administration, ça va super vite. Enfin voilà, je passe un coup de fil à mon CA, j'ai mon président au téléphone et puis en une demi-heure la décision est prise, alors que ça aurait pu prendre 3 semaines dans une collectivité. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à Virage, on est à la fois en soutien des territoires, mais qu'on s'auto-censure pas, c'est-à-dire que si demain on va aller faire une manif contre la centrale de Gravelines, on y va. Les collectivités qui travaillent avec nous, elles nous prennent comme on est, quoi. Elles savent qu'on peut être très bon pour les aider sur leur stratégie de descente énergétique, mais par ailleurs, on est une association anti-nucléaire. Donc, faut faire avec. Il y en a, ça les gêne, il y en a, ça les gêne pas du tout, voilà. Et ça je trouve super. Après, la difficulté, c'est voilà, comme tout secteur associatif, on travaille énormément. c'est pas toujours reconnu à sa juste valeur, que ce soit en termes de salaire, mais de perception aussi à l'extérieur. Il y a le côté, voilà, vous êtes une asso, du coup, vous êtes toujours dispo et on vient toquer à votre porte et vous devez recevoir tout le monde toujours tout le temps. Bah non, en fait, nous, en tout cas, on a quand même une activité, beaucoup d'études, quelque chose d'assez intellectuel, et du coup, on n'est pas dispo pour rencontrer tout le monde tout le temps pour discuter de la pluie, du beau temps et de l'effondrement, etc. Il y a des cadres quand même pour le faire. Voilà, on fait
la pluie, le beau temps et l'effondrement. Ouais, souvent, je vais la garder.
Ouais. Les gens ont besoin de parler de ce sujet-là, mais donc du coup on essaye d'organiser des ateliers, des conférences pour rencontrer le public et en discuter. Comme je te l'ai dit, on est que 2 salariés à l'heure actuelle. Il y a également beaucoup de difficultés financières dans le milieu associatif, alors qui nous touchent pas forcément nous, mais de nécessité d'aller de plus en plus vers de la prestation. Les associations, en tout cas environnementales, ressemblent de plus en plus à des petites entreprises, hein, parce qu'il y a de moins en moins de subventions publiques. Donc il faut aussi aller chercher de la presta, faire de la commercialisation, utiliser tous ces termes un peu barbares, hein, dans la bouche d'associatif, mais qui permettent de faire tourner le modèle, et puis aussi de crise de l'engagement. C'est-à-dire que trouver des bénévoles qui puissent investir du temps, investir des connaissances dans un travail, je sais pas, par exemple de scénarisation, c'est de plus en plus compliqué en fait. Et paradoxalement, voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent s'engager, faire des choses, mais c'est vrai que nous, on est une asso qui, on va dire qu'on est dans la réflexion plus que dans l'action. Alors, on soutient à 200% les copains de Greenpeace, de 350.org, qui vont s'enchaîner au train nucléaire et aller squatter les mines en Allemagne. Ça, c'est super, quoi. Mais nous, on a fait le choix d'être sur une démarche beaucoup plus réflexive, intellectuelle, entre guillemets. Alors, je ne dis pas que ce qu'ils font ne sont pas intellectuels, mais qu'on va être plutôt dans la production de rapports, la production de prise de position, que de l'action militante très, très engagée, physique.
Mais alors moi demain je veux activement participer au lobby citoyen pour faire en sorte que les nouveaux conseils municipaux, tous les nouveaux élus sur les territoires, l'année prochaine c'est les régionales, en tout cas
les départementales.
Oui voilà, on attend, mais ça devrait, oui, ça l'année prochaine. Autant d'élus que j'ai envie de voir conseillés par des structures comme Virage Énergie. Qu'est-ce que je peux faire? Je leur envoie le lien vers le site internet? Ça va être un peu light.
Non. Alors, là, c'est encore frais, hein, parce que les municipales viennent de passer et puis il y a eu le confinement, etc. Mais l'idée, c'est vraiment qu'en fin d'année 2020, nous, on se mette en ordre de marche avec des documents, des plaquettes, des éléments de langage qu'on diffusera très largement auprès du grand public, des collectifs de citoyens en transition qu'on sera tout à fait prêts à rencontrer pour ensuite aller voir justement les nouveaux exécutifs, les nouveaux élus, pour vraiment leur dire votre mandat c'est 6 ans, c'est pas rien, et c'est maintenant qu'il faut faire les choses. On va dire qu'en fin d'année, nous, on sera tout à fait prêts à accompagner ces personnes-là. De notre côté, on va également solliciter les élus. Je pense notamment à tous ces nouveaux élus, hein, de métropole et de grandes villes qui sont écolos, pour essayer de leur dire, vous aviez des choses très intéressantes dans votre programme. Maintenant, concrètement, comment vous les mettez en place et comment vous faites de votre mandat et de votre ville un laboratoire de ce que ça pourrait donner à une échelle nationale, voire même à une échelle européenne. Nous, on travaille beaucoup sur les politiques publiques de sobriété. J'avoue que la ville de Grenoble, c'est un petit peu le territoire qu'on observe tout le temps, quoi, parce qu'ils mettent en place des choses comme la réduction de la vitesse à 30 km/h partout dans la ville, la suppression de la publicité, qui sont des choses qu'on prône, et là ça peut être mis réellement en place.
Grenoble, qui donc, pour le contexte, était une ville détenue, enfin gérée par une équipe écologiste, puisque c'est Éric Piolle qui était maire de Grenoble depuis 2014, et il vient d'être réélu d'ailleurs, son équipe a été réélue, donc ça va être un deuxième mandat, donc ça va faire... C'est 6 ans, 12 ans,
ouais,
12 ans de mandat écologiste sur une ville.
12 ans de mandat écologiste, oui, tout à fait. Et puis avec des territoires où, voilà, c'est super intéressant. Par exemple à Lyon, où la ville est écolo, et il y a énormément d'écolos également à la métropole. Donc voir ce que ça peut donner. Et puis des villes plus petites aussi. Hein. Nous, on travaille beaucoup avec des territoires ruraux où là, il peut se passer des choses super, même peut-être plus que dans des métropoles, parce que la question de la relocalisation, elle est déjà là. Il y a des terres agricoles, il y a des agriculteurs, il y a de quoi faire pour mettre des éoliennes, des panneaux solaires. Et c'est aussi des petits laboratoires qui sont super intéressants, avec toujours en ligne de mire le fait que les villes n'arriveront pas à faire la transition sans les espaces ruraux autour. Sans être dans une démarche de prédation, il faut vraiment être dans une démarche de coopération parce que la ville de Paris va pas pouvoir être autonome en énergie renouvelable, elle va pouvoir mettre des éoliennes partout. Alors elle pourra mettre des panneaux solaires, mais ça suffira pas, quoi. Et pareil pour se nourrir. L'agriculture urbaine, c'est sympa, hein, trois carottes, deux tomates, mais moi j'attends de voir les champs de blé au but de Chaumont, quoi. Et donc ça suppose aussi de repenser le rapport au territoire, le rapport à l'aménagement. Et ça, c'est des choses qui malheureusement à l'heure actuelle en fait sont pas dans tous les radars. Et pareil, en fait, les documents de planification qui sortent aujourd'hui, faut arrêter de bétonner maintenant parce que on va s'en mordre les doigts dans 10 ans quand il faudra trouver des terres qui soient viables pour voir nourrir de manière locale les populations, quoi. Donc il y a un vrai enjeu à se mobiliser maintenant. Avec en effet des élections régionales et départementales qui arrivent l'année prochaine, où là aussi les enjeux sont assez énormes. Faut pas oublier que les conseils régionaux, c'est eux qui récupèrent une grande partie des fonds européens pour les redispatcher sur les territoires. Donc là, la question de la transition doit être pleinement prise en compte et financée via ce moyen-là.
C'était ma première question, c'est qui paye, où est l'argent ? Il y a une partie de l'argent qui vient de l'Europe, c'est les régions qui le récupèrent cet argent, c'est l'année prochaine qu'on va élire les gens qui vont récupérer cet argent. Réfléchissez bien à quel nom vous mettez dans l'urne.
Qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent ? Ouais, tout à fait. Il y a un énorme enjeu avec les régionales et puis des présidentielles qui vont aussi arriver assez rapidement. Donc c'est comment, on essaye d'être au maximum cohérent dans l'accompagnement, les préconisations qu'on peut faire. Et puis comment on se met au travail aussi avec ces élus-là. Enfin, nous, on n'est vraiment pas dans l'opposition avec les élus. Hein. Je parle des élus écolos, mais on peut aussi très bien travailler avec des élus La République En Marche ou des élus de droite. À partir du moment où il y a la volonté de faire des choses, il n'y a aucun problème. Et je pense que beaucoup d'élus de ces partis-là se rendent compte aussi que ça ne va pas et qu'il faut changer les choses. Donc, nous, on est tout à fait ouverts à travailler également avec ces territoires-là. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses à inventer. Les accords de Paris se donnent pour objectif en 2050 que l'ensemble des pays signataires soient neutres en carbone. Donc ça veut dire qu'en fait, on émettrait autant de gaz à effet de serre qu'on serait capable d'en stocker, de carbone. Donc ça veut dire de massivement réduire en fait, hein, nos émissions. On devrait réduire nos émissions par rapport à 1990 de 75% à l'horizon 2050. Donc c'est énorme. Si comme aujourd'hui je te dis, dans ton mode de vie au quotidien, tu dois réduire de 75%.
Alors moi j'ai déjà commencé.
Ouais.
Parce que moi je suis végane depuis 8 ans.
Ok.
Et j'ai pas de voiture.
Ouais.
C'est pas mal.
Voilà, non mais on se rend compte, c'est pas l'inquisition, hein, mais que c'est extrêmement ambitieux, que 2050 ça va aller très vite et qu'on n'a pas de mode d'emploi, quoi. Enfin, comment on décline sur les territoires ces stratégies nationales d'atteinte de la neutralité carbone, enfin de réduction massive des émissions et aussi de stockage. Donc ça veut dire planter des arbres, préserver les terres agricoles. Toutes ces choses qui à l'heure actuelle vont un peu à contresens, hein, de notre modèle de développement, d'urbanisation, de bétonisation qui arrive à son terme, quoi. Donc,
blague à part sur la question que tu me poses, c'est vrai que ça me fait du bien d'entendre ton discours parce que j'ai la sensation que trop souvent quand on essaye de se représenter ses objectifs, quand on essaye de faire face à ce qui nous attend effectivement si on ne change pas, on est très vite arrêté par « oui mais moi qu'est-ce que je peux faire à mon échelle ?» Moi je te parle de mon changement de mode de vie, il a été très progressif pendant très longtemps. Si je devais commencer maintenant, déjà ce serait brutal, ce serait subi, ce serait pas du tout la même histoire que celle que j'ai vécue. Et justement, je suis assez vite, j'ai très envie de te répondre « en même temps, on va y aller ensemble ?» Ou « pourquoi moi tout dans mon coin je devrais faire un effort ?» Pourquoi je devrais supporter le coût de cet effort ?» Parce qu'on pourrait avoir une discussion d'une heure encore sur la transition végétalienne. Ça a un coût, en fait, en termes de temps, d'énergie, d'argent, évidemment. Enfin bref. Et donc, Encore une fois, si ça veut dire m'exclure de tellement de moments sociaux parce que dans des restaurations collectives, bah, y a pas l'option végétalienne. Donc en plus, je finance un modèle que j'essaye de ne plus financer. Bref, il y a rien qui va. Donc, ça me fait du bien d'entendre tout le discours que tu tiens à travers la structure Virage Énergie parce que bah, tu représentes un peu justement ces leviers d'action collective. C'est-à-dire que des structures comme celle-ci bah, participent à enclencher ce mouvement qu'on a besoin de voir naître et de voir se soulever dans les années à venir. C'est un peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Pour qu'on arrête, toi, moi, toutes celles et ceux qui ont envie que les choses changent et qui commencent effectivement par eux-mêmes, qu'on arrête de supporter individuellement, en fait, le coût déjà, mais surtout le poids moral de « il faut que ça change ».
Ouais, tout à fait. Bah, c'est pour ça que nous, on a fait le choix d'aller vraiment vers ce public d'élus et de techniciens. C'est qu'on estime que voilà, c'est des publics qui ont des capacités de faire changer les choses de manière globale, même si on est à une échelle locale, et que les petits pas du colibri, c'est bien, mais que ça dépolitise en fait totalement la question de la transition. Pour nous, la transition, c'est vraiment un changement de modèle de société qui doit s'interroger sur la société de manière globale. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'on continue de subventionner l'aviation ? Est-ce qu'il faut qu'on continue de bétonner ? Est-ce qu'il faut qu'on continue d'avoir une politique alimentaire commune à l'échelle européenne qui subventionne massivement les pesticides et l'agriculture ultra-industrielle ? C'est toutes ces questions-là, en fait, qu'il faut qu'on se pose et que j'estime qu'elles sont un petit peu cachées par le côté, oui, c'est l'individu qui doit faire, le côté très développement personnel de, je me regarde moi-même en introspection avec mes émissions de gaz à effet de serre et ah mince, c'est pas bien, j'ai pris l'avion, ah mince, c'est pas bien, j'ai mangé de la viande, etc. etc. Nous, c'est vraiment le côté collectif qui nous intéresse parce qu'on n'y arrivera pas individuellement.
Mais en plus, on l'a vu, je pense que c'est le truc qui m'a le plus outré, et Dieu sait que je m'indigne facilement, mais on a été nombreux et nombreuses, je pense, à se dire « Ah, l'avion, c'est vrai que peut-être on essaie de le prendre moins souvent. » Et pendant le confinement, les compagnies les faisaient voler à vide pour regarder leur créneau. Mais c'était pas la démonstration qu'en fait, l'action individuelle, c'est bien, mais c'est totalement limité. Bah, ça, c'était la démonstration, mais c'était tellement cynique. Je pense que j'ai conscience d'énormément de réalités politiques et économiques dans ce monde, mais ça, vraiment, j'étais à mille lieues d'imaginer que ça fonctionnait comme ça.
Oui, tout à fait. Et puis, au-delà de la, fin, derrière la question de l'avion aussi, c'est pourquoi on voyage, en fait. Et ces questions-là, on ne se les pose jamais. C'est toujours voilà, la question du moyen. Je prends l'avion, je prends pas l'avion, mais en fait, qu'est-ce qu'on cherche ? Ok, si on veut partir en vacances, on cherche quoi, le dépaysement ?
On consomme des vacances.
Mais c'est exactement ça, on consomme des vacances. Quand on part on part en vacances, on part pas en voyage. Quoi. C'est aussi cette question du temps. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de partir, je sais pas, une fois tous les 5 ans, mais on part 3 mois d'affilée ? Ça réinterroge la question du temps de travail et puis de pourquoi on voyage en fait. Est-ce que si c'est pour aller faire bronzette au bord de la piscine, je sais pas où, à l'autre bout du monde, on peut aller aussi à Nice. Hein. Cette question-là, voilà, elle est aussi vachement intéressante de savoir aussi est-ce qu'il n'y a pas des voyages qui sont plus légitimes que d'autres. Je pense qu'avec la crise du Covid, on s'est bien rendu compte que y a certaines réunions en fait qu'on n'était pas obligé de faire en présentiel, hein, qu'on pouvait faire en visio. Après, pour les relations familiales, amicales, l'ouverture aux différentes cultures, c'est un peu plus différent. Et là, bon, ça suppose d'y réfléchir aussi, hein, de savoir de ce qui est du superficiel ou pas. Sans oublier que ça fait pas très longtemps en fait, hein, que les êtres humains se déplacent comme ça partout dans le monde. Il n'y a qu'à comparer avec nos grands-parents. Hein, c'était des générations qui ne prenaient pas l'avion, qui ne voyageaient pas, qui ne se déplaçaient pas autour de chez elles. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément revenir à ça, mais les gens arrivaient à vivre quand même.
Il y a sans doute un équilibre à trouver.
Tout à fait.
Effectivement, par rapport au rapport à l'avion, dans ma première vie professionnelle, je me souviens, dès lundi matin à Orly, à 6h50, tu prends la navette. La navette, c'est les liaisons Air France, Paris-Marseille, Paris-Toulouse. Et donc, c'est la navette, c'est-à-dire qu'il y en a toutes les demi-heures, pendant 3h le matin, là, et pareil le soir. Et puis, tu peux faire l'aller-retour, du coup, Paris-Marseille dans la journée, quoi. Ça se fait.
Ouais, ça se fait. Mais ça se fait aussi très bien en train. J'ose espérer que là, le gouvernement a bien compris ça et qu'une vraie politique de redirection de l'avion vers le train, en tout cas pour les trajets nationaux, va être possible. Mais que oui, en fait, l'avion ne doit plus être un réflexe. C'est pas anodin de prendre l'avion. Moi-même, hein, je ne le prends plus depuis maintenant quelques années, mais les dernières fois où j'ai dû le prendre, je me sentais physiquement mal parce que je me disais, mais mince, tu travailles sur le climat, tout ça, t'es dans un avion là, qu'est-ce que tu fais? Et en même temps, parfois on est obligé pour des questions personnelles, professionnelles, et on peut pas dire non. Et même ça, en fait, hein, c'est compliqué hein, quand on vous invite, je sais pas où, faire une conférence ou quoi. C'est en avion, bah non, désolé, je peux pas venir. Enfin, c'est des choses qui sont pas encore évidentes à dire, à verbaliser, mais je pense que ça va changer. L'exemple de l'avion consiste quand même lié à une frange de la population plutôt aisée. Hein. C'est pas même si Ryanair c'est pas très cher, c'est pas tout le monde qui prend l'avion. Hein.
Ah mais moi j'ai boycotté l'avion en 2019. Moi j'avais un SMIC, du coup l'avion, on l'a boycotté par principe, voilà, mon SMIC et moi.
Tout à fait. Non, mais c'est toute chose égale par ailleurs. Faut pas oublier que c'est quand même une minorité de la population qui voyage en avion, même avec des low cost, hein, parce que c'est pas tout que l'avion il coûte 30 balles, c'est derrière faut quand même payer les vacances, ce genre de choses, et pouvoir prendre des vacances, hein, ce qui est pas le cas pour tout le monde. Mais il y a une couverture médiatique qui fait qu'on en fait un sujet exceptionnel. Hein, c'est comme les vacances au ski, hein, pour mémoire, c'est 12% des Français qui partent au ski tous les ans. L'idée, c'est vraiment de s'interroger sur nos besoins, ce qui est indispensable, ce qui ne l'est pas, et puis également derrière sur les normes sociales, qui on le sent bien aussi, hein, des grands mouvements, grands soubresauts sociétaux qui font que des choses qui paraissent totalement impossibles ne le sont pas. Il y a 30 ans, qui aurait dit que l'interdiction de la cigarette dans les lieux publics aurait été aussi bien acceptée? Personne. Maintenant, c'est plus un sujet. On fait aussi souvent le parallèle sur les questions énergétiques avec les questions de sécurité routière dans les années 60-70. Hein, du jour au lendemain, le port de la ceinture a été rendu obligatoire. Est-ce que c'était une restriction des libertés fondamentales? Peut-être, pour certains, mais au final, ça amenait beaucoup de bénéfices pour la société. Donc voilà, il faut se poser cette question-là par rapport à nos modes de vie actuels et sur l'impact que ça peut avoir sur l'environnement, mais également sur notre santé, hein, parce que, bien sûr, derrière la question climatique, les questions énergétiques, il y a aussi toutes les questions de santé, de solidarité qu'il faut pas oublier. Et que une transition juste doit se faire également en ne laissant personne sur le bord de la route, bien au contraire, quoi.
Je crois que j'ai vraiment pris conscience pendant notre entretien que finalement le modèle que on défend parce qu'on a peur de le quitter parce que c'est celui qu'on connaît, il ne profite qu'à une extrême minorité et qu'en fait on s'attache juste. En fait, c'est juste la peur du changement. Fondamentalement, c'est parce que ce changement fait peur. Évidemment, c'est l'inconnu, mais le changement, ça fait toujours peur.
On sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on gagne.
Exactement. Mais en plus, on sait pas ce qu'on... Enfin, c'est même pas ça qu'on quitte. Je veux dire, on vient d'avoir une discussion de 10 minutes là sur l'avion, et tu l'as très justement rappelé, ça concerne une minorité de gens qui ont les moyens de voyager. La plupart des gens, encore une fois, la priorité, c'est de pouvoir avoir accès à une alimentation saine, de qualité, de pouvoir vivre dans des zones où l'air n'est pas pollué, où ils ne sont pas exposés à des nuisances sonores énormes, etc. etc. Et donc, en fait, fondamentalement, quand on regarde la majorité de la population, je rejoins ce que tu as dit tout au début de cet entretien. Oui, en fait, ça profite à tout le monde. Et le coût qu'on doit investir pour réussir à réussir cette transition, On est de toute façon en train de s'endetter à maintenir ce modèle-là.
Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que ça nous invite aussi à sortir d'un modèle très individualiste, en fait, où on pense à soi, ses amis, sa famille, mais que ça va être un bien bien collectif, en fait, qui va être apporté par ce changement. Alors, ce changement... La façon dont on l'entend d'une manière intellectuelle, après je ne suis pas certaine hein, que malheureusement ce changement se fera rapidement et sans heurte. Hein. Forcément il y a des gens qui vont chercher à garder leur position, leur mode de vie, leur statut. Mais que ça vaut quand même le coup, hein, comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut se permettre d'être encore dans un modèle choisi, sachant que le modèle subi arrive, c'est que toutes ces mesures-là, si on ne les met pas en place maintenant, au bout d'un moment, ça va être totalement subi. On pourra se poser la question aussi du modèle politique, des modèles démocratiques dans lesquels on sera. Est-ce qu'à plus 4 degrés, on ira encore voter gentiment pour son président et pour son maire ? Je ne suis pas certaine, surtout pour les territoires des littoraux. Voilà, enfin, un moment...
On aura l'état d'urgence climatique.
Oui.
Et qui va être prorogé à chaque fois. Et
bon, ah bah, il sera permanent.
Ah bah oui.
Il sera permanent. Et en effet, je comprends bien la difficulté de se projeter, même à l'échelle de notre vie personnelle, mais si on se projette à 2150, 2200... et qu'on se remet à l'échelle de l'histoire de l'humanité, ben on aura quand même foutu pas mal de choses en l'air en 300 ans. Et ça, c'est assez vertigineux. Et rien que pour ça, en fait, ça vaut le coup de se dire, bon, peut-être que ça ne fonctionnera pas, peut-être qu'on va se planter, il y a de fortes chances qu'on se plante, mais s'il y a 1% de chances qu'on ne se plante pas, ben faut y aller. Et je consacre ma vie professionnelle, une partie de ma vie personnelle à mener ce combat-là. Et puis voilà, j'aurais fait ce que j'aurais pu et puis advienne que pourra.
Merci beaucoup Barbara. Où est-ce que j'envoie tous les gens qui auront écouté cet entretien jusqu'au bout, merci à eux, et qui auraient envie maintenant d'agir, de faire quelque chose de concret pour participer au changement?
Alors, bah, tu peux les envoyer sur le site de Virage Énergie pour avoir plus d'informations sur l'asso et avoir accès à nos scénarios. Donc c'est www.virage-énergie.org. Je les enverrai également vers le site du réseau Action Climat, qui est une association en fait qui fédère une petite centaine d'assos en France qui travaillent sur ces questions-là. Donc vous tapez réseau Action Climat sur votre moteur de recherche préféré et ça sortira. Et puis si vous voulez en savoir un peu plus sur les questions énergétiques, je vous renvoie vers le site de l'association Negawatt qui a une page qui s'appelle Décrypter l'énergie, qui est très bien faite et qui vous permettra de tout comprendre sur les sujets énergétiques.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Dernière question. En fait, j'ai menti, j'ai dit que c'était la première question avant qu'on enregistre et puis je l'avais posée parce qu'on est parti dans un tunnel de conversation passionnante. Barbara, est-ce que tu te souviens de ta première indignation ?
Alors, je ne sais pas si c'était la première, mais je me souviens avoir été assez fortement marquée quand j'étais petite, donc je vais avoir 9-10 ans, par la marée noire de l'Erika. Premier souvenir, je pense, environnementaux assez fort que j'ai eu de ces... ces goélands, ces mouettes pleines de mazout qu'on récupérait sur les plages. Et ce sentiment un peu de gâchis, en fait, et de tâches juste incommensurables de devoir nettoyer ces plages. Donc ça, ouais, c'est une des premières indignations que j'ai eues. Et puis ensuite, j'ai un papa hein, qui est assistant social et très fan de Canal+, et donc tous les dimanches, j'avais le droit au vrai journal de Carl Zéro avec derrière les guignols et derrière le Groland. Et ça a pas mal aussi façonné la façon dont je réfléchis à l'heure actuelle, mais l'appétence aussi que j'ai eue pour des sujets un petit peu en décalage et quelque chose qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'était, je me souviens, il y avait assez régulièrement dans l'émission de Carl Zéro, le vrai journal, des interviews d'Anna Politrovskaya, journaliste russe, qui a été assassinée quelques années plus tard, et ça m'avait fortement marqué, et en tout cas c'est ces émissions qui m'ont apporté une certaine ouverture intellectuelle sur le monde et un regard aussi assez critique. Sur la société dans laquelle on vit.
Ah, j'en profite pour passer un message personnel, mais si quelqu'un qui m'écoute a le contact de Carl Zéro, alors vraiment, s'il vous plaît, mettez-nous en relation, parce que moi aussi, je pense qu'il a beaucoup forgé ma culture politique, en tout cas ma curiosité et mon envie d'en savoir plus et de poursuivre dans ces voies-là. Donc j'adorerais faire un activiste avec Carl Zéro, oh là là, merci de nous mettre en relation, Internet. Ça a déjà marché par le passé, donc je tente. Merci encore Barbara, c'était passionnant.
Merci à toi.
Vous êtes un ou une activiste dans l'âme ? Écrivez-nous à tutoconquérirlemonde@gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.
Activiste est une émission d'interview portrait-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes sur Instagram @conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly/clembodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.